L'évangile de Marc, chapitre 14. Et nous suivons notre Seigneur avec foi, avec humilité, maintenant dans ces dernières heures de sa vie. Et nous abordons la passion de Christ. En arrivant à ce chapitre. Jusqu'ici, nous avons, les disciples ont vu les miracles de Jésus et sa puissance. Jusqu'ici, ils ont compris la sagesse du Sauveur et ont entendu son enseignement. Mais maintenant, à partir de ce moment, tout va changer. À partir de ce moment, ce n'est ni la puissance miraculeuse du Sauveur, ni la sagesse du Sauveur, mais ce sont les souffrances du Sauveur. Les disciples, Marc nous amène vers ce moment où le Christ ne parle plus et n'agit plus, mais subit afin de nous sauver. Nous lisons au chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 11. La fête de Pâques, nous dit Marc, et des pains sans levain, donc deux fêtes qui étaient collées dans le calendrier juif, devaient avoir lieu deux jours après. Les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Car ils disaient, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Pas maintenant, parce que tout le monde, des dizaines de milliers de gens, sont arrivés, la ville est surpeuplée, c'est pas le moment. Mais on cherche le moyen dès que possible. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Et le mot est très fort, nous dit-on les commentaires en grec. À quoi bon perdre ce parfum ? On gronde la femme, on la reprend, on réprimande la femme. Qu'est-ce que tu viens de faire? Quel gaspillage! On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Elle est donnée aux pauvres et il s'irritait contre la femme. On est là et il y a une tension dans la salle. Il y a de la colère. Est-ce qu'elle a rougi? Elle se sent horriblement mal en ce moment. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Parce qu'elle a de la peine maintenant. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et nous réalisons cette prophétie aujourd'hui. Parce que nous racontons, loin de Jérusalem, loin de Béthanie, ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des douze, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Nous avons un mot qui manque, un mot important au début du verset 10. Ça devrait lire « Alors, Judas Iscariote ». Et Matthieu et Marc, tous les deux, semblent liés le départ de Judas pour aller parler avec trahir Jésus à cet événement de la dame, qui l'a tellement fâché. En fait, Jean nous dit dans sa version que c'est Judas qui a dit « Pourquoi ce gaspillage ?» Et d'autres ont été un peu entraînés par lui. Mais Jean chapitre 12, je vous lis juste ce détail, et comme ça on va comprendre un peu mieux. On nous dit que c'est Marie, Jean de Béthanie, qui prit une livre de parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec les cheveux. Donc apparemment, elle a mis ça sur la tête. Et puis, comme il y en avait beaucoup, elle a aussi oint les pieds de Jésus. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, nous revenons à notre dernier verset. Le verset 11. Donc, ils l'écoutèrent, les principaux sacrificateurs écoutèrent Judas Iscariote avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. La toile de fond. Nous sommes donc à 2 jours de la Pâque. Et le moment où les Juifs vont tous aller célébrer le salut que Dieu a donné dans le passé, dans l'Exode. Et cet agneau dont le sang a été aspergé sur toutes les linteaux des portes et qui les a sauvés de l'ange destructeur, de sorte qu'ils puissent partir d'Égypte. Et au moment où tout Israël est en train de penser à cet agneau et ce sang et ce salut, le vrai agneau de Dieu se prête à répandre son sang sur des bois aussi, non pas des linteaux, mais sur 2 bois d'une croix. Et tout ce qui est représenté dans la fête va se passer au même moment devant leurs yeux à Jérusalem, sauf que la plupart ne vont pas le comprendre. Donc, 2 jours, dans 2 jours, la fête complot meurtrière des leaders religieux. On nous dit au début, Marc nous dit que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort, mais pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Quelle attitude haineuse, meurtrière, mauvaise. Il y a des mauvaises choses qui se passent dans les coins cachés à Jérusalem où ces sacrificateurs et ces théologiens sont là et ils discutent le meurtre et la ruse. Et ça se passe en chuchotant, en parlant comment on va faire. Mais pas maintenant. Sauf que quand l'homme fait le mal, quand le diable même emporte les hommes à faire le mal le plus grand, Dieu est à l'œuvre. Et Dieu est en train de contrôler ce mal parfaitement pour réaliser son plan de grâce. Et vous savez, les choses échappent un peu aux mains des scribes et des sacrificateurs parce que Jésus est mort en pleine fête. En pleine fête. Le moment où il dit surtout pas là, c'est Dieu qui contrôle et il pousse Judas à aller un peu plus tôt vers les sacrificateurs ou plutôt à trahir Jésus un peu plus tôt qu'il n'aurait pas voulu en faisant le contrat avec lui. Et donc les sacrificateurs et les scribes eux-mêmes viennent chercher Jésus cette nuit-là en pleine fête de la Pâque. De sorte que les prophéties des prophètes qui ont toujours dit que le Messie allait expérimenter ses souffrances et sa honte devant tout le peuple. Ils ont voulu le faire dans un coin. Mais lorsque l'homme essaie de faire le mal, Dieu est à l'œuvre parfaitement pour accomplir son plan glorieux. Avec cette introduction et cette toile de fond, nous pouvons maintenant arriver à notre deuxième point, le portrait de ce que la bonne nouvelle produit. Pourquoi est-ce que je donne ce nom à ce point qui est vraiment le cœur de notre méditation? Parce que vous avez remarqué que Jésus a dit au verset 9, à la fin de cet incident avec la femme, avec Marie de Béthanie, en vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle ou l'évangile sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. En d'autres termes, Jésus est en train de vous dire ce que Marie de Béthanie a fait ce jour lorsque les gens mauvais sont en train de comploter. Elle fait quelque chose de complètement opposé, quelque chose de tellement important, tellement central à l'évangile lui-même, que si on parle de l'évangile, il faut qu'on parle de Marie et ce qu'elle a fait ce jour-là. Parce que ce qu'elle a fait, c'est la première chose que l'évangile doit produire. L'attitude qu'elle avait, la priorité qui était dans sa pensée, c'est ça que l'évangile produit partout. Et donc nous voulons voir quelle est la première chose que l'évangile produit. Et si vous êtes en train de dire, est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que l'évangile a percé chez moi? Est-ce que l'évangile a produit le salut chez moi? Eh bien, vous pouvez voir maintenant, aujourd'hui, chez cette dame, la première chose, certainement, qui arrive chez le vrai converti, qui comprend la grâce de Dieu venue en Jésus-Christ. Ok, la scène. Béthanie est à peu près 3 kilomètres de Jérusalem. Vous vous rappelez que Jésus, depuis des jours maintenant, pour tout vous dire, Marc n'est pas en train de mettre les choses dans l'ordre chronologique exact. Si vous voulez, en vérité, le geste de Marie se passe avant, 6 jours avant la Pâque, selon l'évangile de Jean. Mais Marc l'intercale là, il dit tout simplement au verset 3, comme Jésus était à Béthanie, une phrase très générale, pour ne pas dire, je ne suis pas en train de dire que c'est 2 jours avant. Il dit, pendant que Jésus était à Béthanie, mais il le met ici, après avoir dit que la Pâque vient dans 2 jours, parce qu'il veut thématiquement lier les choses et mettre Marie entre les sacrificateurs au début du passage et à la fin du passage qui veulent trahir Jésus et tuer Jésus. Et entre ces deux choses, comme Marc en a très souvent l'habitude, il aime mettre des serre-livres, deux choses semblables aux deux bouts, et la chose au milieu est la chose importante. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il le fait. Excusez-moi de cette parenthèse. Mais la scène, nous sommes à Béthanie. Béthanie est sur le mont des Oliviers, à 3 kilomètres seulement du centre-ville de Jérusalem. Donc, chaque jour, Jésus va à Jérusalem, il parle, il enseigne encore, il rentre à Béthanie. Il reste chez qui? Il reste chez Lazare et Marie et Marthe. Il avait ressuscité Lazare d'entre les morts, et les deux sœurs et le frère sont de proches amis. Mais ce jour-là, Marc nous dit qu'il est dans la maison de Simon le lépreux. Apparemment quelqu'un de connu. Quand vous voyez que l'évangéliste prend le soin de donner le nom, c'est parce que les gens disent « Ah oui, c'est Simon le lépreux ». Alors, il est intéressant de savoir que dans les rouleaux de la mer morte, on a trouvé des indications que dans le premier siècle, il y avait bien une colonie de lépreux juste dans les alentours de Béthanie. Voilà, dans la partie, dans les marges de Béthanie. Et Simon faisait partie de ces gens qui avaient été lépreux. Il ne l'est plus, sans doute. Il a été guéri par Jésus, sans doute. Mais on est dans sa maison ce jour-là. Jean nous dit que c'est Marthe qui sert au repas. Elle dit « Marthe servait ». Et on nous dit « Bah, ça c'est normal ». Parce que c'est Marthe aimait servir, n'est-ce pas? On la connaît, n'est-ce pas? Et on se demande pourquoi une femme qui n'est pas la femme de Simon sert le repas. Mais réfléchissez, Simon le lépreux. Alors sans doute à cause de sa maladie, il est resté célibataire. Et il n'est pas du tout étonnant, il est plutôt complètement logique qu'une femme voisine soit celle qui prépare et sert le repas. Donc, Lazare est là, à table, nous dit Jean, celui qui avait été ressuscité. Marthe est là, Marie est là, dans la maison, et les disciples sont là. Quelle est l'ambiance? C'est au moment où on va accueillir Jésus à Jérusalem avec des palmes, ça va se passer chronologiquement juste le lendemain. On est dans la fête et on est dans la réjouissance que Jésus est là, que la foule se demande si Jésus va venir à la fête, nous dit Jean à la fin du chapitre 11 de l'évangile de Jean. Il y a un sentiment d'attente et il y a aussi ce soir-là, je pense, dans le cœur de certains des disciples et je pense profondément dans le cœur de Marie qui est très à l'écoute spirituellement. Je crois qu'il n'y a pas, il y a non seulement la joie, mais il y a aussi un sentiment de crainte. Il y a quelque chose qui arrive, car Jésus ne cesse de parler du fait que maintenant arrivé à Jérusalem, il sera livré aux sacrificateurs et aux scribes et il sera crucifié. Maintenant, nous voulons regarder l'acte de Marie. Marc nous dit, au verset 3, « Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. » Ce n'est pas comme cette autre femme pécheresse dans l'évangile de Luc qui vient avant qu'on commence à manger. Dès que Jésus entre, elle est là, elle lave les pieds de Jésus. Cette fois, ils sont là depuis un moment et maintenant ils sont passés à table. Le repas a commencé et ou est en train de commencer. Et Marie entre dans la salle pour faire quelque chose de mûrement réfléchi. Parce qu'elle a apporté avec elle un vase d'albâtre de parfum très cher. On nous dit que c'est un parfum de nard pur de grand prix. Alors le parfum de nard vient d'une racine qui pousse en Inde. Et vous pouvez comprendre que si vous êtes en Israël au 1er siècle et vous avez du parfum de pur nard de l'Inde, alors c'est très cher. Et nous avons lu dans le passage que ce parfum valait plus de 300 deniers, c'est-à-dire plus de 300 jours de salaire d'un ouvrier. Un denier, c'est le salaire d'un jour. C'est-à-dire à peu près un an de salaire. Qu'est-ce que vous pourriez acheter avec un an de salaire? C'est immense, la valeur de ce parfum. Souvent, de tels vases de parfum étaient des objets de famille, c'est-à-dire des objets précieux gardés dans la famille et passés de génération en génération. Ça pourrait être une chose qui était censée, qui était donnée à Marie, léguée à Marie, censée être pour le jour de son mariage. Nous savons que c'est extrêmement précieux. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'a même pas cassé pour l'utiliser lorsque son frère est décédé. Parce que on embaume les morts avec des aromates, des parfums, des huiles comme cela. Mais non, même pas pour Lazare lorsqu'il est décédé. Cette chose est gardée. Mais ce jour-là, mûrement réfléchi, Marie arrive avec le vase. Et le passage nous dit, Marc nous dit qu'elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Un vase d'albâtre, c'est une sorte de poterie spéciale qui, dans l'Antiquité, était utilisée surtout pour conserver des huiles aromatées, des huiles précieuses. Et donc, la seule manière d'ouvrir un vase d'albâtre, c'était de le casser. Parce qu'il n'y avait pas de bouchon, on ne voulait pas que quoi que ce soit échappe, la poterie était fermée. Et donc, il fallait casser la poterie, casser un peu la nuque. Et donc, elle brise le vase. Et maintenant, bien sûr, elle est obligée de répandre toute l'huile qui est dedans. Elle répand cela d'abord sur la tête de Jésus. Cela nous semble bien bizarre, n'est-ce pas? Tu es à la table et on met de l'huile partout sur ta tête. Mais ce n'est pas du tout bizarre à l'époque. J'ai lu hier soir presque une dizaine de citations des ouvrages écrits dans l'Antiquité qui parlaient du fait de oindre un visiteur important avec de l'huile sur la tête. Donc c'était une chose assez commune, mais ici, c'est quand même complètement extravagant. Parce que normalement, l'huile que tu utilises pour oindre ton visiteur est une huile qui ne coûte pas cher, que chaque fois qu'il y a un visiteur, on peut lui mettre de l'huile sur la tête ou sur les pieds, parce qu'on marche en sandales, les pieds sont abîmés, la peau est cassée dans les pieds, etc. Et donc, ici, nous avons autre chose, complètement autre chose. Tout le monde est époustouflé. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça, tu peux pas utiliser. Et donc, nous voyons cette réaction de Judas, et qu'il entraîne certains des disciples à quoi bon perdre ce parfum? C'est une pure perte! C'est une perte. C'est un gaspillage que tu fais. Et on s'irrite. Et on reprend la fin devant tout le monde. Et il y a une lourde ambiance pour un moment jusqu'à ce que Jésus intervienne et défende Marie. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours, parce que le Seigneur sait que dans quelques jours, il s'en ira. Il s'en ira. Le Fils de Dieu. Et il a dit, les jours viendront où vous espérerez voir un des jours de Fils de l'âme. Et vous ne les verrez pas, parce qu'il est parti. Maintenant, nous voulons Jésus défendant cette femme. Elle a fait cela pour embaumer mon corps avant. Et il est vrai, qu'est-ce qui arrive lorsque les femmes arrivent au tombeau le dimanche pour essayer d'embaumer le corps de Jésus? Ils ne peuvent pas, il n'est plus là. Et Jésus le sait très bien, tout cela. Et maintenant, nous voulons essayer de comprendre pourquoi Jésus loue tellement ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Marie ce jour-là qui est au centre de l'esprit chrétien, saisi par la bonne nouvelle? Et nous allons voir trois choses. Jésus en premier, l'expiation de Jésus et un amour extravagant. Jésus en premier, j'utilise ces mots pour vous parler de la primauté de la dévotion à Jésus-Christ. Chez toi, si tu es chrétien, il y a une chose qui prime. Dans ton cœur, ça balaye tout le reste pour prendre la place centrale. Qu'est-ce qu'il prime? C'est la dévotion, l'amour, la gratitude envers Jésus-Christ. Nous voyons que elle arrive ce jour-là et elle a ce parfum précieux et elle ne pense qu'à une chose. Tout ce que j'ai de plus précieux dans ma vie, tout ce que je possède de plus grande valeur, je veux le lui donner. Lui qui a ressuscité d'entre les morts mon frère, lui qui a séché mes larmes, lui qui a dit à ma sœur, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra à cause de moi et à cause de mon amour. Alors, elle peut-être sait un peu plus profondément que Jésus s'en va à la croix. Les autres l'ont entendu, mais ça ne semble pas avoir pénétré. Mais Marie est assez particulière. Et je me demande si elle ne s'y attendait pas beaucoup plus que les autres. En tout cas, Jésus dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Vous voyez la primauté de la dévotion à Jésus? C'est comme si Jésus disait, moi le premier, les pauvres après. Vous voyez? Elle a fait une bonne action à moi parce que je suis premier et je suis premier dans son affection. Les autres choses, vous les ferez quand vous voulez. Et bien sûr, ce n'est pas pour minimiser l'importance d'aider les pauvres. Et les chrétiens sont, dans l'histoire, ont été toujours reconnus pour leurs actions envers les pauvres. Dans le 3e siècle, l'empereur Julien était un homme qui détestait les chrétiens. Il essayait d'enrayer le christianisme qui avait maintenant envahi l'Empire romain. Et si vous voulez aller sur l'internet et lire quelques-uns des écrits de Julien, parce qu'il était un des plus grands écrivains de sa génération, de son époque. Mais il écrit à un moment donné à un prêtre païen et il dit ceci. Il lui envoie de l'argent et il dit « Je vous prie d'en faire toucher le cinquième aux pauvres qui sont de service auprès des prêtres et de distribuer le reste aux étrangers et aux mendiants. Il serait honteux quand les impies galiléens » c'est sa manière d'écrire les chrétiens, « quand les impies galiléens nourrissent tout ensemble, et les leurs, et les nôtres. » Il est fâché, et il écrit beaucoup là-dessus, il est fâché parce que il pense, et il dit que les chrétiens ont gagné le monde entier par leur bienfaisance. Il a dit, à un autre moment, dans une autre lettre, la négligence et l'incurie de nos prêtres à l'égard des pauvres a suggéré aux impies galiléens la pensée de s'appliquer à ces œuvres de bienfaisance. Et ils ont consolidé le pire des entreprises grâce au dehors séduisant de leurs pratiques. Donc il essaie de pousser les prêtres païens à faire un peu de bien, parce que les chrétiens... Déjà, je pense, vers cette époque, sont en train de prendre soin de 1500 pauvres et orphelins dans la ville de Rome tous les jours et de les nourrir. Donc, on met de côté cette question sur les pauvres, nous comprenons leur importance, mais ce que Marie nous fait saisir, c'est que votre premier devoir, chers amis, n'est pas de faire du bien aux hommes. Votre première devoir en tant que chrétien n'est même pas de chercher le salut des âmes. Ce n'est pas les âmes, premièrement, c'est Christ, premièrement. Mais surtout, le bien temporel des âmes vient deuxièmement. Vous savez que la fausse religion est toujours humaniste. L'humanisme, c'est la religion du monde, n'est-ce pas? Et le centre d'attention, c'est quoi dans une religion humaniste? Qu'ils se disent chrétiens, hein? Il y a des églises libérales. Vous êtes distrait par quelque chose? Ah, c'est le propre. Comment? Ah, d'accord. Ok. Yeah. Donc, oui. Je lui demanderai de ne plus faire ça pendant la culte. Oui. Donc, je disais que le centre d'intérêt de la religion dans certaines églises, c'est justement de faire du bien aux pauvres. C'est ça, être chrétien, c'est aller faire des œuvres caritatives, n'est-ce pas? C'est l'homme, c'est ce qui nous tient au cœur, ce qui prime, c'est le besoin des âmes. C'est la pauvreté, c'est le besoin d'éducation, c'est le Dieu de ces gens, c'est le bien-être éphémère et physique des âmes. Mais Marie nous enseigne que non. Le centre d'attention, ce n'est pas l'homme et ses besoins, c'est Dieu. Deuxièmement, dans la religion fausse, c'est ce que nous faisons qui prime. On a besoin de faire de bonnes œuvres, n'est-ce pas? Toujours de faire un truc. Et lorsque nous faisons, nous allégeons un peu la souffrance des âmes, on se sent bien comme on est de bons chrétiens. N'est-ce pas? Même si on n'a jamais pensé, si on ne pense jamais à Christ. Et ce qu'il est venu faire, ce qu'il a accompli. Non, c'est parce que c'est ce que moi j'accomplis qui prime. Et c'est toujours une indication d'une fausse religion. Dans la fausse religion, c'est des principes et des actes universels qu'on peut toujours faire. Mais dans la vraie foi, c'est ce que Jésus est venu faire une seule fois, qui est le centre de tout, qui est le plus important, qui nous sauve. Vous voyez que le problème de la folie de la religion libérale est fausse, c'est que on pense uniquement aux besoins éphémères et superficiels des âmes, le besoin du corps, le besoin matériel, le besoin physique. Et on s'occupe beaucoup de cela. Et comme j'ai dit, il faut s'occuper du corps de l'homme. Mais la folie de cela, c'est pourquoi est-ce que vous êtes en train de sauver les hommes de leur pauvreté? Pourquoi? Quand ces personnes vont aller et faire du bien et hausser le niveau de vie, pourquoi? Maintenant, ok, tu les as placés dans une sécurité matérielle plus grande, mais pour quelle raison? Pour qu'ils puissent juste vivre sans Dieu et sans espoir le reste de leur vie plus confortablement? Pour que leur péché soit plus confortable? Pour que leur éloignement de Dieu continue dans une aise plus grande? Vous voyez le problème? Non. Jésus dit, les pauvres, vous aurez toujours avec vous. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que, chers amis, quand vous allez aider des pauvres, je veux vous informer d'un truc. Vous n'allez rien résoudre, fondamentalement. Vous aurez toujours les pauvres, toujours des pauvres, toujours des pauvres. Parce que vous êtes en train de vous attaquer aux symptômes, n'est-ce pas? Aux symptômes du mal humain. Le mal humain n'est pas quelque chose en dehors. N'est pas ma situation économique. Le problème humain, c'est que moi-même, dans ce que je suis, je ne veux pas de mon Créateur lui-même. Je suis aliéné de Dieu et donc de tout le plan pour ce que l'homme devait être. C'est ça le problème humain. Et pour résoudre ça, aller aider les hommes avec le dehors, ça ne peut rien faire. Voilà pourquoi Marie va au Christ, parce que en venant prendre sur lui le péché de l'homme, la racine, le vrai problème qui nous éloigne de Dieu et donc les uns des autres, et en mourir sur le poids du péché, Jésus va maintenant résoudre véritablement le problème humain pour ceux qui viennent à lui. Donc je suis en train de, pour le moment, de vous dire pourquoi Jésus prime, pourquoi l'affection pour Christ prime, pourquoi je suis plus intéressé à louer Jésus-Christ pour ce qu'il a fait que d'aller faire du bien aux pauvres. Parce que je sais que le plus grand bien que je puisse faire pour les pauvres, c'est de connaître celui, d'être en bonne relation avec celui qui peut les sauver corps et âme. Personne qui, s'il est sage, ne prendrait des orphelins de la rue, des enfants de la rue, comme on les appelle aujourd'hui, pour aller les nourrir, leur donner des vêtements, leur donner un toit sur la tête, et puis les laisser nourris, vêtus, habités, juste comme ça, sans jamais penser à vouloir leur donner une famille, à appartenir, à vivre une vie d'amour. C'est ça? Parce que si je suis bien maintenant, c'est pour que je puisse jouir de ce qui est vraiment la vie. Et la vie n'est pas faite de vêtements, simplement, ou de nourriture. Jésus prime pour nous parce que c'est lui qui est la vie éternelle. Deuxièmement, sa mort expiatoire, elle vient et le Seigneur explique son geste au verset 8. De cette manière, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je ne sais pas si Jésus veut dire que Marie savait pertinemment qu'elle était en train d'embaumer son corps. Peut-être. Peut-être elle ne savait pas exactement toute la portée de son acte. Mais Jésus nous indique, en tout cas, elle a fait ce qu'elle a pu. Et moi, je pense qu'elle savait qu'il allait mourir et elle veut montrer de cette dévotion pendant qu'elle peut. Et qu'il y a quand même un lien entre la mort de Jésus qui arrive, elle le sait, et son acte de vouloir faire pendant qu'il est temps ce qu'elle peut pour honorer le Sauveur qui meurt. Et donc, nous, partout où l'Évangile passe, la nouvelle de Marie et son geste doit passer, parce que dans le cœur du chrétien, Jésus prime en raison justement de sa mort, en raison de sa mort expiatoire. Écoutez bien ceci. Les autres disaient, mais vous ne pensez pas aux pauvres. Mais Marie est la seule qui pensait aux pauvres. Le pauvre par excellence, qu'elle a roint de son huile. Parce que la Bible nous dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. N'est-ce pas? Jésus est celui qui s'est appauvri plus qu'aucun homme n'a jamais été appauvri. Vous voulez savoir la pauvreté? allez à la croix et voyez l'homme nu, sans rien, sans disciples qui se sont enfuis, sans personne et même sans Dieu qui doit crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est l'homme complètement abandonné, dénudé. Pourquoi ? Parce que c'est la seule manière dont il peut vous sauver du fait que vous-même, vous êtes pauvre spirituellement. Vous êtes loin de Dieu. Et donc, le geste de Marie nous amène tout droit vers la croix. Elle a embaumé. C'est ma mort. C'est un geste vis-à-vis de ma mort. Et ça, cela explique quelque chose que les chrétiens font que le monde ne comprend pas. Vous savez que les gens, quand ils entendent qu'il y a une nouvelle église qui est arrivée, ils n'ont rien à faire avec les églises, les gens dans ce monde. Ça n'a aucune importance. Sauf si nous, on peut faire un peu de bienfaisance dans la ville, ils disent « ok ça ». Ça, c'est très bien. Vous êtes bon pour ça. Mais le fait que nous venions et que nous chantions à Jésus-Christ et que nous nous réjouissons en Jésus-Christ et sa mort sur la croix, lui, et ce qu'il a fait en mourant, ça, ils n'ont rien à faire. Ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que vous faites un tel grand cas de Jésus-Christ et de sa mort à la croix? Ça, ils ne comprennent pas. Cette partie, la partie horizontale, fait du bien aux pauvres, là ils peuvent comprendre, parce que c'est complètement humaniste. Mais la partie verticale, comme Marie, qui vient vers Jésus, et qui l'adore, qui le loue, qui se dévoue à lui, qui lui donne tout ce qu'il y a de plus cher, comprend pas. Mais, si vous avez compris l'évangile, je n'ai pas besoin de vous dire cela, n'est-ce pas? C'est dans votre cœur. C'est votre joie, c'est votre gloire. Viens mon âme et contemple un objet sans exemple. Le Dieu sauveur en croix. On le frappe, on l'outrage, on lui crache au visage, il expire enfin sur la bois. C'est moi que la justice condamnée au supplice, moi qui devais mourir, les tourments, les blessures, les coups, les meurtrissures, c'est moi qui devrais les souffrir. Tu te mets à ma place et ta croix change en grâce ma condamnation. Sur ta tête sacrée, d'épines couronnées, tu portas ma confusion. Je te suis redevable, mon sauveur adorable de tout ce que je suis. C'est Marie, ça. N'est-ce pas? Et nous chantons et nous réfléchissons et nous bénissons l'amour de Dieu qui se révèle, qui est en Christ. C'est, si vous avez compris l'évangile et si vous savez que c'est vrai et vous l'avez embrassé, vous ne pouvez qu'avoir cette attitude de Marie. Jésus prime, sa croix prime. Troisièmement et dernièrement, un amour extravagant. D'accord, je vois que Marie nous enseigne au sujet de l'adoration, ce qu'on peut appeler l'adoration, la dévotion envers Jésus-Christ. Et on comprend que c'est ça veut dire que je suis un adorateur lorsque Jésus prime dans mon affection, lorsque Jésus prime à cause de sa mort sur la croix, et lorsqu'il prime, qu'est-ce que je fais moi? Je fais preuve d'un amour extravagant envers lui. Nous voyons qu'elle arrive avec ce vase, et c'est complètement... Je ne vais pas dire que c'est fou, mais on parle de l'amour fou, n'est-ce pas? On parle d'un coup de foudre, on parle de l'extravagance de l'amour, et c'est ça qui produit, c'est un miracle, c'est quelque chose d'étrange dans le cœur des chrétiens. Un amour, une reconnaissance extravagante envers le Fils de Dieu. Nous voyons, regardez bien, et là je vais essayer d'arriver à la fin, mais ce point est extrêmement important, c'est peut-être le plus important ce matin. Ils disent au verset 4, « Quelques-uns exprimèrent entre leur indignation, à quoi bon perdre ce parfum ?» Dans un des autres récits là-dessus, ils disent « À quoi bon ce gaspillage ?» Est-ce que vous comprenez? Dans le cœur de l'homme sans Dieu, il y a un esprit utilitaire, utilitariste, n'est-ce pas? Je crois qu'on dit comme ça. C'est-à-dire que ça doit servir à quelque chose, n'est-ce pas? Si tu avais secouru des pauvres, on pouvait voir les effets, on serait content. On t'aurait laissé, sacrifier ton vase d'abattre, un an de salaire. Mais là, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Sauf de dire au Christ, je t'aime. C'est comme lorsque j'ai acheté l'anneau de mariage, enfin de fiançailles pour Nikki. Avec le petit diamant, c'est pas très grand, mais ça m'a coûté, ça m'a presque tout l'argent que j'avais de côté, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas acheté cette bague parce que je sais que si elle porte ça, elle va arriver à, je sais pas, à taper quelqu'un plus fort ou à creuser dans la terre avec. Tu vois, ce truc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Sauf de lui dire, tout mon argent que j'avais, j'ai mis ça dans ce petit truc qui sert à rien, juste pour te dire, je t'aime. Parce que c'est ça qui prime dans mon cœur. J'aurais pu prendre cet argent et aller aider des pauvres. Mais je vous assure, messieurs, dames, si tout le monde qui se marie n'achète plus de bagues de mariage, ne fait jamais plus preuve d'un amour extravagant, on peut sauver les pauvres, mais on les fait revivre dans un enfer. Parce que tout ce que nous aurons, c'est un amour, c'est une vie qui ne vaudrait plus rien. Parce que ce pour quoi nous sommes faits, c'est d'aimer avec un amour extravagant. Et le Seigneur Jésus en premier. Si donc nous voulons arriver au cœur de l'action de Marie, nous devons comprendre l'adoration comme cela. L'adoration, c'est gaspiller sur Jésus parce qu'il est Jésus et parce qu'il est mort. Et tout ce temps que vous prenez, cette énergie émotionnelle que vous utilisez juste pour adorer le Seigneur. À l'église, dans vos moments de prière, quelqu'un va vous dire, mais pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Faites-le. Parce que là, vous êtes dans le cœur de l'évangile. C'est pour cela que le Seigneur nous sauve, n'est-ce pas? Que nous puissions revenir à lui et l'aimer. Et ça va nous pousser à aimer les autres et à aider les pauvres, mais d'une manière complètement différente. Parce que nous allons vouloir faire pour eux plus de bien. Nous ne nous contenterons jamais juste d'aider leur corps. Nous allons tellement vouloir qu'ils comprennent et qu'ils goûtent de l'amour de Christ aussi pour eux. Et nous allons être gagnants de tous les côtés. Je m'exhorte et je vous exhorte donc de ne pas perdre cet amour extravagant pour Jésus-Christ. De ne pas devenir un de ces chrétiens qui se préoccupe tellement de faire le bien, de se perfectionner soi-même, que soi-même devient le début et la fin de ta vie chrétienne. Tu n'es pas le début et la fin de ta vie chrétienne. Ce que tu fais vaut bien peu comparé à ce qu'a fait Jésus-Christ pour vous. Donc, premièrement, Premièrement, Marie ressemble à elle et donner à Christ ce qu'il vaut. Nous allons chanter. Ce chant que je vous ai lu, le numéro 120, « Viens mon âme et contemple ».